Bonjour, je suis Yann Verline, je suis vice-président de la région Île-de-France à l'écologie. Je suis engagé pour l'environnement depuis une trentaine d'années et vous écoutez un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous propose de partir à la rencontre d'un faiseur de solutions, plus exactement aujourd'hui une faiseuse de solutions. Bienvenue, on est parti pour une demi-heure d'échange avec Muriel Papin. Vous êtes délégué général de l'association No Plastic in My Sea. Bonjour.
Bonjour.
On va démarrer avec une question toute simple. Qui êtes-vous ?
Alors, donc, comme je vous l'avais dit, je suis la déléguée générale de cette association. Je suis aussi une maman. J'habite en Île-de-France et je suis une amoureuse de la mer, d'où un lien avec l'association qui a été créée en 2018 et qui lutte contre la pollution plastique.
Bon, très bien. Alors, on va enchaîner tout de suite avec l'association. Puisque c'est la raison de ce podcast aujourd'hui, cette association, alors d'abord peut-être son histoire, elle s'est créée, pourquoi ? Qui l'a constituée ? Pourquoi ? Quel a été le déclencheur ?
Le déclencheur, c'était la prise de conscience d'une pollution plastique absolument croissante, qu'on a identifiée au début essentiellement au niveau des océans, et étant des amoureux de l'océan, un groupe d'amis à l'origine, et de parents, parce que c'est important, c'était aussi par souci des générations futures, qu'on s'est dit, on ne peut pas laisser un océan aussi pollué à nos enfants, aux générations futures, il faut agir. Et en fait, finalement, il n'y a pas tellement d'associations mobilisées sur le sujet, ou celles qui sont mobilisées, elles le sont beaucoup sur le recyclage, le nettoyage, et en fait, sans doute que le problème, il est plus complexe, et qu'on est face à une surproduction de plastique. C'est ça qu'on a identifié au début et qui a motivé la création de l'association.
Alors, vous avez dit à l'instant quelque chose qui est original, c'est des parents. Alors, expliquez-nous un petit peu ça. Comment vous êtes retrouvés, comment se rencontrent des parents concrètement pour créer une association qui, d'ailleurs, n'a rien à voir directement avec l'éducation, même si. Mais ce n'est pas une association de parents d'élèves, comme on peut dire. C'est comment des parents se retrouvent sur une telle cause ?
Tout simplement, c'est un groupe d'amis, en fait, à l'origine, et qui identifie ce problème, et qui l'identifie par rapport, en fait, à sa propre expérience de la nature, de l'océan, et au fait que quand on était enfant, il n'y avait pas de plastique sur les plages. En fait. Et on se dit finalement, dans l'histoire d'une demi-vie, on est à peu près à la moitié de notre vie, et bien finalement on est face à une pollution majeure, alors à l'échelle mondiale, mais aussi en France, hein, dès qu'on se promène sur les plages, on voit énormément de plastique, de pollution plastique, et on se dit, en 40-50 ans on est arrivé à ça, qu'est-ce que ça va donner pour nos enfants, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est vraiment le souci des générations futures, et donc d'agir très vite pour éviter que ça se dégrade encore plus.
Et peut-être avant d'aller dans l'action concrète que vous avez menée, parce qu'au fond, on peut se dire que ceux qui nous écoutent savent de quoi on parle, mais pas forcément. Alors, c'est quoi le problème des plastiques aujourd'hui ? On en a autour de nous une quantité phénoménale. Il y a d'ailleurs des plastiques qui sont... voilà, moi je vois autour de moi, le micro qui est devant nous, il est en matière plastique en partie. Mais il y a aussi, ça c'est du plastique qui n'est pas jetable, à la limite ça va, mais il y a du plastique jetable. Donc quel est le problème que vous avez identifié avec le plastique à la base ?
Alors en fait, donc le plastique qui est à l'origine de la pollution, c'est un matériau assez récent, c'est un matériau qui est complexe, qui n'est pas biodégradable, qui est difficilement recyclable. On n'en recycle que 25% en France et 9% dans le monde. Donc ce n'est pas un matériau comme les autres, déjà. Mais c'est un matériau aussi qui prend toutes les formes, donc on le retrouve partout. Et donc on est face à une surproduction de plastique et une production qui est exponentielle, c'est-à-dire qu'elle ne se stabilise pas, elle augmente chaque année et elle devrait même tripler dans les 30 ans qui viennent si on ne fait rien. Et en plus, ce matériau accompagne des usages et notamment l'usage du jetable, c'est-à-dire de l'usage unique des matériaux, enfin par exemple les plats à emporter, les verres à emporter, les pailles, etc. Et donc, tous ces petits objets en plastique, en plus, ils sont légers. Donc, ils se véhiculent facilement dans l'environnement avec un coup de vent, hein, une poubelle de rue qui déborde, un plastique qui finit dans la nature. Voilà, donc on a ces différents problèmes-là. Le matériau, sa surproduction. Et j'ajouterais aussi qu'il y a beaucoup d'additifs chimiques dans les plastiques. Donc, il y a aussi un enjeu sanitaire. Il y a un enjeu environnemental, mais il y a aussi un enjeu sanitaire.
Et peut-être, expliquez-nous... Où est le problème environnemental à la fin ? Parce que, comme vous dites, il se disperse, il va dans la nature, mais après, qu'est-ce qui se passe dans la nature et en quoi nous, ça nous affecte à la fin?
Alors, c'est là que c'est une chaîne très complexe et que c'est vraiment un problème systémique, c'est-à-dire que, un, le plastique est partout dans notre économie et il va être partout dans l'environnement sous des formes diverses. Dans notre économie et dans nos modes de consommation, hein, il est absolument partout, sous plein de formes différentes. En termes de pollution, c'est plein de formes de pollution aussi différentes. Parce qu'il y a ce qu'on voit, il y a la bouteille plastique qu'on va voir en bord d'autoroute, par exemple.
Ou sur la plage, comme vous l'avez dit.
Ou sur la plage. Il y a aussi des petits bouts de filets de pêche ou des petits bouts de poches à huîtres, par exemple. Parce que c'est aussi des matériaux plastiques qui sont utilisés aujourd'hui dans la conchyliculture, dans la pêche, etc. Tous les filets, en fait, c'est des matériaux plastiques. On a aussi du plastique dans nos vêtements. Et ça va relarguer. Tous les tissus synthétiques, c'est des tissus qui sont à partir de fils de plastique. Et ça relargue ce qu'on appelle des micros et des nanoplastiques dans l'eau de lavage et dans l'eau de rinçage, qui va finir dans les rivières, qui va finir dans l'océan. Donc, il y a plein de formes de pollution différentes. Et par exemple, les microplastiques, ensuite, en fait, ils vont s'évaporer. Ils sont dans l'eau, hein, et dans l'eau de mer, ils vont s'évaporer. Et il va pleuvoir, il va neiger des microplastiques. Aujourd'hui, on dit qu'il neige des microplastiques dans les Alpes. Même dans des lieux qui sont très reculés de toute source de consommation plastique. Donc voilà, donc c'est un matériau qu'on retrouve partout aujourd'hui. On en retrouve aussi, alors ça c'est assez terrible, dans notre corps.
Oui, alors c'est ça le problème, non? À la fin.
Tout est un problème. Au début, on voyait que les plastiques qui faisaient moche dans l'océan, hein, pour le dire un peu simplement. C'est les navigateurs qui ont commencé à identifier des zones d'accumulation de plastique. On parle du 7e continent. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on a des microplastiques dans notre corps. Donc, le 7e continent, il est aussi dans notre corps différemment.
Et on connaît aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits sur les impacts sanitaires. Qu'est-ce que ça cause comme problème, notamment peut-être chez les enfants, puisque on parle des parents, enfants, mais, ou des mères qui vont avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact sur la santé?
Alors, il y a deux impacts majeurs. Il y a l'impact qui est lié au fait qu'il y a des additifs chimiques dans le plastique, qui souvent sont des perturbateurs endocriniens. Au total, dans tous les plastiques, il y a 16 000...
Peut-être expliquer perturbateur endocrinien.
Oui. Alors, que c'est un perturbateur endocrinien, ça va créer une perturbation hormonale qui va être source de pathologie. Donc, ça peut être une source d'obésité, ça peut être une source de retard intellectuel aussi. Ça, on l'observe avec certains additifs chimiques qui sont dans les plastiques. Ça va créer de l'infertilité. Voilà, il y a plusieurs pathologies derrière la perturbation endocrinienne.
Donc ça, c'est un effet.
Voilà, ce sont les additifs chimiques qui sont... Alors, par exemple, les gens ont entendu parler des bisphénols ou des phtalates. Donc, le bisphénol A, il est interdit en France, mais il y a d'autres bisphénols. Les phtalates, c'est source d'infertilité. Bon, voilà, il y a toutes ces familles d'additifs chimiques qui créent de la perturbation endocrinienne. Et l'autre source inquiétante pour notre santé, c'est le fait que ces micro-nanoplastiques, ils vont circuler dans notre corps. On en retrouve dans les poumons, dans le cerveau, on en retrouve dans le placenta humain, du côté fœtal. Donc les bébés sont déjà exposés, en fait. C'est ça qui est aussi très inquiétant. Je reviens au fait qu'on est des parents. Hein, pour les générations futures, c'est vraiment très inquiétant. Et ça, si vous voulez, ça fait penser un peu, par exemple, aux poussières de l'amiante. C'est-à-dire que ce sont des petites particules qui sont dans notre corps et qui peuvent créer des inflammations et derrière créer des cancers, par exemple. Mais là, récemment, il y a une autre étude qui montre qu'on aurait 5 grammes de microplastique dans le cerveau.
C'est énorme, 5 grammes.
Oui. Ouais. Et les scientifiques voient plus de microplastique chez les cerveaux de personnes atteintes de démence que chez des personnes... Il y en a aussi chez des personnes saines, mais moins.
Bon, sur ce tableau qui explique pourquoi il faut se mobiliser, concrètement, comment vous vous êtes mobilisé? Qu'est-ce que vous avez enclenché comme action?
Alors, on a trois types d'actions différentes qui s'adressent finalement à trois types de publics différents. Donc, on s'adresse aux régulateurs, c'est-à-dire aux pouvoirs publics et aux acteurs publics à toutes les échelles pour partager la connaissance scientifique et faire en sorte qu'on ait des lois qui soient plus protectrices et qu'elles soient appliquées, parce que parfois on a des lois, elles ne sont pas appliquées. Voilà, donc notamment en France, on a une loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui prévoit de réduire les plastiques à usage unique d'ici 2040. Donc on est très mobilisés sur cette loi. Ça, c'est le premier levier. Là, on s'adresse donc aux décideurs publics. Le deuxième, c'est qu'on s'adresse à toute la population, parce qu'il faut aussi partager cette connaissance. Donc c'est bien aussi que vous puissiez me donner l'occasion d'en parler. C'est important que les gens aient conscience de tous les impacts du plastique. Environnementaux et sanitaires, et on permet aux gens de se mobiliser, de se protéger, de protéger leurs enfants, et de réduire leur consommation en partageant des éco-gestes, en partageant des solutions. Comment je peux faire concrètement si je veux consommer moins de plastique? Il y a plein de solutions qui existent. C'est pas facile, mais il y a des solutions. Et le troisième public qu'on vise, c'est les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les entreprises proposent des produits qui soient moins plastifiés, qui proposent des alternatives aux consommateurs. Parce que le consommateur, il est un peu tributaire de l'offre qu'il trouve dans son supermarché.
Et alors, on a lancé une collaboration avec la région Île-de-France. Alors, qu'est-ce que c'était cette collaboration? Qu'est-ce qu'on a fait?
Alors, on a tout un travail, nous, pour réduire les bouteilles plastiques. Parce que les bouteilles plastiques, on les retrouve beaucoup dans l'environnement. C'est une des premières sources de pollution. Et c'est un travail sur lequel la région est aussi mobilisée, ainsi que sur un plan zéro plastique à usage unique en 2030. Donc, on s'est rejoint sur ces objectifs-là. Et le travail qu'on fait, nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le fait de, par exemple, c'est prévu par la loi, hein, développer des points d'eau et permettre aux gens, pour une gourde, la plupart des Français aujourd'hui ont une gourde, de remplir leur gourde plutôt que d'acheter de l'eau dans une bouteille plastique, ici ou là, sur le territoire. Et en Île-de-France, il y a déjà des points d'eau, mais on peut faire beaucoup mieux. Je sais que la région aide aussi les collectivités à acquérir des points d'eau. Et nous, le travail qu'on fait, c'est de pousser au-delà des collectivités les établissements qui sont obligés de mettre à disposition des points d'eau qu'ils ne font pas. Donc ça peut être par exemple des gares, des grosses stations de métro, ça peut être des grands musées, des grands cinémas. Ils ont l'obligation de mettre à disposition un point d'eau et de le signaler.
Donc, ça, c'est depuis quand, cette obligation?
Depuis début 2020.
Et quand on va dans un cinéma et qu'on constate qu'il n'y a pas de point d'eau, on a le droit de râler, on peut le signaler au gérant du cinéma. Où est le point d'eau?
Voilà, on peut le faire, on peut râler, et puis on peut signer la pétition qu'on a mise en place. Donc nous, on agit pour que ça ait vraiment lieu et que du coup, les consommateurs, ils prennent le réflexe d'avoir leur gourde parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir la remplir.
On a à disposition aussi une carte où on géolocalise tous les points d'eau. Donc ça, c'est une première dimension.
Est-ce qu'on peut la trouver, cette carte?
Sur le site qui s'appelle Watermap en anglais.
Watermap.fr. Watermap.fr.
Okay. Voilà. Et là, on va retrouver des points d'eau. Et puis, je voudrais dire que les JO nous ont donné raison.
C'est intéressant, ça, oui, effectivement. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui a été fait pendant les JO en Île-de-France?
Parce que lors des JO, il y avait un objectif de réduction de moitié des plastiques à usage unique par rapport à Londres. Et cet objectif a été atteint. Mais il a été surtout atteint parce que, justement, sur tous les sites des JO, il y avait des points d'eau. Sur les objets que vous aviez le droit d'emmener en tant que spectateur, c'était clairement écrit que vous pouviez venir avec votre gourde. Il y avait une campagne de communication avec un jeu de mots qui disait « aveugle gourdé », avec la petite fridge qui avait une gourde. Et donc, il y a eu toute une action qui a été faite pour que les gens viennent avec leur gourde. Et à 80%, selon un sondage, ils sont venus avec leur gourde. Et en fait, on a eu beaucoup moins de boissons servies, consommées par rapport
à Londres. Alors, quels sont les chiffres? Vous me les aviez donnés, alors dites-les.
Alors, à Londres, il y a eu 18 millions de boissons qui étaient servies, donc eau ou soda, etc. Donc, servies soit gratuitement aux athlètes, aux bénévoles, soit sous forme payante. Et en fait, à Paris, on est passé...
18 millions donc de boissons, mais toutes, à l'époque,
en bouteilles plastiques.
En bouteilles plastiques,
voilà. Oui, tout à fait.
Ou en canettes, j'imagine aussi, peut-être.
C'était des bouteilles plastiques.
Surtout des
bouteilles plastiques. À Londres, oui, c'était des bouteilles plastiques. Et à Paris, en fait, il n'y a eu que 10 millions de boissons servies. Et sur ces 10 millions, seulement 5 en bouteilles plastiques, puisqu'il y avait aussi des systèmes de fontaines, etc.
Donc c'est une division par 4.
Final, oui. Oui, oui, c'est division par 4 et la moitié est due au fait que les gens n'ont pas acheté d'eau en bouteille.
Donc ça marche.
Ça marche.
Ça marche. Juste le fait de mettre des points d'eau.
Et ça marche. Ouais. Ça marche parce que prioritairement, les gens s'hydratent avec de l'eau.
Oui, c'est ça. Ils ne vont pas forcément acheter un soda ou un coca ou un. Voilà, ils n'ont pas besoin d'une marque, ils ont besoin d'eau. Voilà. Donc ça a marché. Et. Ces points d'eau sont restés? Qu'est-ce que sont devenus ces points d'eau? Ils ont disparu ou la plupart sont restés? Il y a un héritage quand même, JO?
Alors, nous, on travaille aussi pour qu'il y ait un héritage avec le ministère, avec les fédérations sportives et puis les grands sites sportifs. C'est important que cet héritage se poursuive parce que c'est vrai que c'est vraiment une victoire importante, en fait, dans la réduction des plastiques. C'est difficile de réduire les plastiques. Là, on a vraiment un cas d'école où ça marchait et les gens étaient très satisfaits. Donc c'est important, évidemment, de poursuivre. Les points d'eau, ils continuent à exister. Ce qu'il faut, c'est à nouveau que quand il y a un grand événement, on dise aux gens, venez avec votre gourde.
Ne pas faire perdre l'habitude.
Voilà.
Ouais. Et puis, comme vous dites, quand on a à disposition un point d'eau, on peut remplir sa gourde.
si on n'a pas le point d'eau, on ne remplit pas sa gourde et qu'on peut néanmoins avoir soif, on va acheter du coup une bouteille.
Bien sûr.
Donc c'est un peu logique. Et alors, on en avait parlé en amont de ce podcast, donc votre identification des points d'eau, c'est une action très concrète dans le sens où effectivement vous êtes parti du principe que une des solutions pour réduire les plastiques, c'est d'arrêter les bouteilles en plastique. Mmh. Alors, ça ne va pas faire plaisir aux vendeurs d'eau. Mmh. Néanmoins, c'est une réalité de réduction de plastique. Vous avez dit à l'instant que quand on le fait, ça marche. Maintenant, la question, c'est, on a fait ça pour les JO, ça a très bien marché. Maintenant, comment on rend ça quotidien, dans la rue, pour tout le monde, tous les jours de l'année, pas seulement à l'occasion d'événements sportifs majeurs ou d'événements culturels. Donc, c'est quoi l'objectif pour vous en termes de couverture, il faut un point d'eau où, quoi, comment, enfin voilà. C'est quoi vos préconisations en termes de présence de points d'eau?
Alors, c'est déjà qu'on respecte la loi, puisque la loi, elle prévoit que tous les établissements qui accueillent 300 personnes doivent avoir ces points d'eau et qui doivent être signalés, c'est-à-dire qu'ils doivent être visibles. Et là, l'année dernière, quand on avait fait une enquête, on avait vu qu'il n'y avait que 40% des établissements, donc sur toute la France, hein, qui respectaient la loi. Donc, il faut qu'on arrive à 100%. Donc, il faut que toutes les grosses stations de métro où il y a du flux, on ait ces points d'eau et puis il faut qu'ils soient visibles.
Pardon, juste une petite précision. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par point d'eau? Par exemple, si des toilettes sont disponibles et on peut se laver les mains avec de l'eau potable, est-ce qu'on appelle ça un point d'eau? Parce que je remplis ma bouteille au lavabo des toilettes, c'est de l'eau courante. Est-ce que ça, c'est un point d'eau?
Alors, ça coche la case de la loi. Si c'est propre et si c'est à température tempérée, c'est-à-dire que c'est buvable. Parce que parfois, il y a des points d'eau ou l'eau trop chaude. Donc là, ça ne va pas cocher la case, notamment dans des stations-service. Donc ça coche la case de la loi. Après, c'est moins incitatif pour le consommateur qui va préférer une fontaine un peu à l'écart des toilettes. Voilà. Mais ça coche la case. Donc en tout cas, voilà, on ne peut pas reprocher à l'établissement de ne pas respecter la loi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des établissements qui jouent le jeu et qui mettent en place des fontaines qui sont à part, qui parfois ont de l'eau filtrée, parfois même de l'eau gazeuse, donc qui donne plus envie aux consommateurs. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et puis après, il y a cet enjeu de signalisation. Bah, par exemple, dans les gares SNCF franciliennes, en tout cas les grandes gares à Paris, on a des points d'eau aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore assez visibles. Donc il y a encore un enjeu de les rendre visibles pour vraiment créer l'usage. Mmh. On a de plus en plus, il y avait une cinquantaine de stations de métro hein, à Paris, et pour, j'avoue que sur toute l'île de France, j'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, on a quand même des équipements qui se mettent en place, et les consommateurs, les voyageurs ne le savent pas encore, donc il faut encore partager l'information. Mmh. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment que fin 2025, on ait 100% des points d'eau là où ils doivent être, et qu'ils soient visibles.
Et votre carte indique à quel endroit aujourd'hui on peut trouver des points d'eau dans ces établissements qui ont l'obligation de le faire.
Oui.
Ça, on peut le trouver sur votre carte.
Oui.
Notamment dans les stations de métro, on peut savoir à quel endroit il y a des fontaines.
Tout à fait. Voilà. Ouais. Parfois, il y a des petits soucis de données, on n'a pas toutes les données, mais on essaye d'être le plus exhaustif possible.
Oui, parce qu'une station,
possible.
Ça peut être très grand. Donc, j'imagine quand même que ces points d'eau sont notamment à l'endroit où on arrive pour badger, enfin pour entrer à l'entrée, quoi. C'est pas caché dans un couloir.
Oui, alors ce qu'a bien fait la RATP, c'est en fait, vous n'avez pas besoin de... c'est avant le tourniquet.
C'est ça, c'est donc gratuit au sens où on n'a même pas besoin d'avoir un Navigo ou un titre de transport.
Exactement, on peut descendre dans une station de métro, remplir sa gourde et remonter à l'extérieur.
Mmh. Ça, c'est vrai pour les stations, on n'en est pas encore là pour les arrêts de bus ou les arrêts de tram.
Je crois pas qu'il y en ait, parce qu'en fait, c'est des arrêts, ils accueillent pas 300 personnes en même temps. Comme c'est ça le critère, je pense qu'il n'y a pas 300 personnes en même temps. Mais quand on regarde notre carte, on a un maillage qui commence à être pas mal sur Paris intramuros, c'est un peu moins à l'ouest de Paris. Et après, en revanche, sur la couronne, on voit que c'est plutôt l'est, le nord-est, où il y a encore des efforts à faire en termes d'équipement et de mise à disposition de ces points d'eau.
Donc ça, c'est pour les lieux qui sont dans la loi, donc les lieux accueillant au moins 300 personnes. Et plus, évidemment, ça, c'est encore plus vrai. Ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la rue, par exemple?
Ah, dans la rue, bah, c'est important. Bah, y a des fontaines publiques qui existent. Hein. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait suffisamment, qu'il y en ait dans toutes les zones où il y a beaucoup de passages, dans les zones où on peut avoir besoin de s'hydrater, peut-être parce que, vous voyez, les têtes sont plus exposées au soleil, par exemple. Enfin, c'est tout bête, hein, mais il y a des questions comme ça qui se posent. C'est la fréquentation, c'est le fait que c'est des zones peut-être moins ombragées où on a plus besoin de s'hydrater. Même en termes de santé publique, hein, je pense que ça peut être utile qu'on ait...
Notamment en été, il y a besoin d'eau.
qu'on ait ces points d'eau. Voilà, donc là, il y a encore un travail à faire. C'est vrai que le fait que la région finance en partie des fontaines...
À 50%, oui.
Pour les collectivités, c'est très important. Ça, c'est un déclic aussi pour...
Absolument. Et d'ailleurs, pour nous, le point d'utilité aussi de notre collaboration, c'est de pouvoir identifier... Les endroits prioritaires, parce que j'imagine que votre carte, enfin vous allez nous en parler, peut identifier des zones blanches, ou des zones où il en manque, des points d'eau. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à faire comme ça, cette carte de priorisation, c'est là qu'il faut un point d'eau, là il en manque un, est-ce que cette carte le dit?
Bah, en tout cas, elle nous montre là où il y a moins de points d'eau. Et donc après, on travaille avec vos services justement pour identifier comment on peut compléter ces points d'eau sur ces critères-là. Par exemple, des zones très fréquentées, de manière courante, des zones très fréquentées ponctuellement. Par exemple, c'est vrai que si on sort à Saint-Denis et qu'on va au Stade de France, il faut que sur le chemin du Stade de France, on trouve des points d'eau. Voilà, donc il y a des exemples comme ça.
Parcs publics aussi.
Les parcs publics. Alors, généralement, ils sont équipés, souvent. Ouais. Les parcs publics sont déjà équipés. Et ça, les gens, je pense, le savent. Donc, c'est plutôt d'autres zones de fréquentation parce qu'il y a des flux de population qui passent là. Mmh. Donc, ils sont importants à identifier et à équiper.
Tout à l'heure, on parlait des robinets qui sont simplement les robinets de lavabo où on se lave les mains dans des établissements accueillant du public. Dès lors que l'eau est froide, et on peut dire qu'on peut cocher la case, comme vous dites, de « c'est un point d'eau ». Comment... Est-ce que vous travaillez la question assez fréquente de l'appréhension qu'ont les gens de boire l'eau du robinet? Parce qu'il y a cette appréhension de penser que l'eau en fontaine, elle est meilleure parce qu'elle est filtrée, parce que peut-être ou pas d'ailleurs, mais il y a cette appréhension de boire directement l'eau du robinet, c'est assez fréquent. Et c'est voilà, moi j'en bois de l'eau du robinet, ça ne me pose aucun problème, mais je sais qu'il y a quand même un a priori négatif.
Alors, bien sûr. Alors moi, je bois de l'eau du robinet et je m'en porte très bien. C'est vrai qu'il peut y avoir des inquiétudes. Après, il y a une question de fraîcheur, par exemple. C'est vrai que de l'eau en bouteille, si on l'achète, elle sort du frigo. Bon, elle est plus agréable en été parce qu'elle est plus fraîche. Après, il y a des appréhensions qui sont liées ou des questions de goût par rapport au chlore, l'odeur de chlore qu'on peut avoir dans l'eau du robinet, le calcaire. Mais ça, c'est plutôt des questions finalement de plaisir gustatif. Voilà, donc là, c'est vrai que à la maison, il y a plein de solutions parce qu'on peut filtrer son eau avec une carafe ou on la met au frigo et puis finalement, l'odeur de chlore va s'évaporer. En extérieur, on va avoir moins de solutions. Donc après, la fontaine en extérieur, c'est une solution pour s'hydrater à moindre coût et peut-être qu'on n'aura pas exactement le même goût que celui auquel on est habitué à la maison ou la même fraîcheur. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit hydraté puis qu'on évite aussi un coût, hein, parce que la bouteille plastique, c'est un coût. Si je prends l'exemple de la gare, c'est une petite bouteille, c'est 2,50 €. Hein, pour une famille de 4 personnes, ça mange vite. Hein.
Ouais. Et il faut quand même dire que l'eau du robinet est quand même très réglementée. C'est-à-dire qu'on ne risque rien en buvant l'eau du robinet. On peut avoir le désagrément du goût, mais il y a des solutions, comme vous l'avez dit, la laisser juste s'aérer. Donc, notamment pour le chlore, ça s'en va très vite. Mais surtout, redire aux gens qu'il n'y a aucun risque à boire l'eau du robinet. On n'est pas dans un pays où l'eau ne serait pas maîtrisée, où on pourrait avoir des bactéries dans l'eau, ça n'existe pas chez nous. Donc, c'est quand même un élément à marteler que c'est sûr de boire de l'eau du robinet. Tout à l'heure, vous aviez dit il y a plein de solutions. Donc, on a parlé des bouteilles d'eau, parce que le point de départ, c'est pas l'eau. Enfin, même si on a parlé beaucoup d'eau à l'instant, et de bouteilles d'eau, et de gourdes, et de points d'eau. Mais le point de départ de votre action, c'est les plastiques. Donc, quelles sont les autres solutions pour se passer du plastique? Vous avez dit il y a plein de solutions.
Ah oui, il y a plein de solutions. Donc si on a un particulier, en fait on peut regarder tous les plastiques qu'on a dans sa maison, pièce par pièce. Et donc par exemple on prend la cuisine, on va voir souvent qu'on a trop d'emballage. Donc la question c'est est-ce que je peux acheter moins emballé? Donc par exemple acheter en vrac. Est-ce que je peux acheter des produits avec des solutions de réemploi où du coup je vais réutiliser l'emballage que je vais par exemple re-remplir. Il y a des magasins qui font ça où je viens re-remplir ma lessive en vrac et j'ai toujours le même bidon. Donc voilà, il y a des solutions de ce type-là qui existent. On peut choisir aussi des emballages plus grands, éviter les petits emballages individuels pour chaque gâteau. Enfin, il y a vraiment, quand on regarde, il y a plein de solutions pour réduire les emballages, notamment de l'alimentaire et des boissons. Je voulais dire aussi que sur les bouteilles plastiques, au-delà de l'eau, on peut faire sa boisson à la maison. On peut faire son thé glacé, on peut faire son soda même, avec des machines à gazéifier.
Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire assez simplement. Voilà, il ne s'agit pas non plus de
passer énormément de temps et de créer de la contrainte. On peut changer plein de choses dans son alimentation, dans ses boissons. Dans la salle de bain, on n'a pas besoin de gel douche, on peut utiliser du savon solide. Il y a des shampoings solides qui sont de très bonne qualité, qui gardent le cheveu brillant. Enfin, on a la même qualité en termes de service rendu. Voilà, donc il y a plein de produits qui existent, qui permettent de réduire aussi les plastiques de la salle de bain. Il y a ensuite toute la question des vêtements, où c'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui 70% des textiles sont synthétiques, hein, c'est des fibres de plastique. C'est pas forcément excellent pour la peau.
Et c'est souvent en partie en synthétique, parce qu'on pense acheter un vêtement en coton, et en fait, quand on regarde l'étiquette, ouais, il y a un peu de synthétique dedans. Voilà.
Donc, Oui, souvent c'est des mélanges aussi. Donc c'est vrai qu'on peut regarder les étiquettes et faire des choix, le choix d'être sur des matières naturelles. C'est de toute façon mieux pour sa santé, pour sa peau, et on transpire moins dedans. Et puis par ailleurs, ça relargue moins de microplastiques. Il faut faire attention aux jouets. Après, si on revient sur la santé et les enfants, il faut faire attention aux jouets. Hein. À tous les jouets en plastique, c'est vrai qu'on expose beaucoup les enfants à des plastiques, et parfois certains sont perturbateurs endocriniens. Donc il faut surtout voir aussi l'origine du jouet. Voilà, et diversifier, pas être que sur des jouets en plastique, parce que là, il y a vraiment du risque.
D'autant qu'il y a du choix.
Tout à fait. Les biberons en plastique, c'est une calamité. Il ne faut jamais chauffer du lait dans un biberon en plastique. Après, voilà, pour des raisons de santé, il faut surtout ne jamais chauffer des boissons ou des aliments dans du plastique.
Ça, j'en avais entendu parler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les cantines scolaires abandonnent de plus en plus les barquettes. Notamment quand il n'y a pas cuisine, c'est-à-dire qu'ils ont des barquettes qui arrivent et qui sont en plastique, qui réchauffaient. Là, maintenant, on est dans des contenants en inox. En tout cas, nous, en Île-de-France, au niveau des lycées, on généralise ça. Donc, la chasse au plastique au quotidien. Pour être réaliste, on ne peut pas bannir tous les plastiques de son quotidien. Donc, vous, votre message, c'est faites l'effort que vous pouvez. C'est grosso modo ça, votre message pour chacun.
Oui, c'est faites l'effort que vous pouvez. Regardez, je pense que c'est important de regarder sa poubelle, de regarder pièce par pièce. Il y a des plastiques dont on n'a pas conscience. Comme c'est un matériau qui est complexe, qui est souvent mélangé. Faire attention aussi, par exemple, à la décoration. C'est-à-dire, plus on a un intérieur où il y a du plastique sur le sol, sur les meubles, etc., plus on respire aussi à l'intérieur du plastique. Donc, c'est important de prendre conscience de tout ça, et puis de réduire. Voilà, de réduire pièce par pièce. Et on n'est pas obligé de passer au zéro plastique. Moi-même, je vis pas avec zéro plastique, c'est impossible. Mais j'ai réduit énormément mon exposition, celle de ma famille et les plastiques qu'on utilise. Et puis ça, c'est un chemin, ça se fait tranquillement. On ne fait pas du jour au lendemain. On enlève un plastique, ensuite l'autre.
Puis un indicateur, tranquillement. Un des indicateurs, c'est sa poubelle. Quand on regarde sa poubelle, on voit combien de plastique on a mis dedans. Ça montre combien de plastique à usage unique ou à emballage on a utilisé, qu'on a pu économiser. Bon, plus on a de petits emballages papier, mieux c'est quand même. Écoutez, on a fait un tour d'horizon assez intéressant. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, écoutez, je pense qu'il faut être optimiste sur le sujet. Puis c'est vrai qu'il y a le troisième acteur qui est important, c'est changer les entreprises. Et là, on a des entreprises, par exemple, en France, on a aussi le réemploi des verres qui se développe, le réemploi du verre avec des bouteilles, des bocaux en verre, qui se met en place.
Le réemploi, ça veut dire on ne détruit pas le verre, on le garde entier, on le lave et on le réutilise.
Exactement. Voilà. Et ça, c'est tout un champ qui va s'ouvrir avec une offre qui va être de plus en plus en magasin. Et donc, les consommateurs vont pouvoir, plutôt que d'avoir un emballage plastique qu'ils jettent, qui est plus ou moins recyclable, ils auront un bocal en verre, une bouteille en verre qu'ils pourront ramener ou qui sera récupéré par un livreur, relavé, re-rempli. Et ça, des dizaines, voire des centaines de fois. Et ça, c'est un grand changement.
D'ailleurs, la région Île-de-France accompagne un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui se spécialisent dans la collecte des emballages réutilisables, dont du verre, mais pas que, aussi de l'inox, mais du verre aussi, pour installer des logistiques de lavage. Parce que c'est ça le sujet, c'est derrière, il faut laver et rendre au commerçant ou à celui qui l'utilise ou le restaurateur des produits lavés. Bah écoute, on a fait un bon tour. Merci beaucoup. Je conclurai en disant, voilà, vous avez écouté un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière les solutions pour une écologie positive. Et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.
Merci.